Habemus Papam.
In Springfield, they're eating the dogs.
Por primera vez me convertiré en la primera mujer presidenta de México.
Ici, le monde.
Ici le monde, c'est un voyage en trois escales de ce qui fait l'actualité à l'étranger. Cap ce matin sur l'Irlande où, n'ayons pas peur des mots, on craint un problème d'érection à l'échelle mondiale. L'Irlande accueille en effet de nombreuses entreprises pharmaceutiques sur son territoire. Certaines commercialisent une petite pilule bleue traitant ses problèmes de santé. Seulement voilà, avec les dernières nouvelles en provenance des États-Unis concernant les droits de douane, le pays s'inquiète. Devra-t-il subir ces taxes alors que pour l'instant, le domaine pharmaceutique est épargné? On voit ça avec notre correspondante sur place, Clémence Pénard. Clémence, menace alors ou pas sur les médicaments?
Oui, en Irlande, le secteur pharmaceutique, c'est l'un des piliers de l'économie. De nombreux géants américains du médicament s'y sont installés au fil des années. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 73 milliards d'euros d'exportation irlandaise vers les États-Unis, 44 milliards proviennent des seuls produits pharmaceutiques vendus donc outre-Atlantique. Concrètement, les géants américains du secteur encaissent en Irlande les bénéfices de leurs ventes aux États-Unis. Une pratique à laquelle Donald Trump souhaite mettre fin en taxant ses exportations. Son but, en fait, est d'inciter ces entreprises à relocaliser leurs usines sur le sol américain. Et vous parliez d'un petit médicament bleu. Je suis allée à Ringaskiddy, alors c'est dans le sud-ouest de l'Irlande, surnommé le village du Viagra. C'est ici que l'entreprise américaine Pfizer décide de produire en 1998 le médicament le plus tonique de la région. Et à l'époque d'ailleurs, les rumeurs vont bon train. Certains habitants m'ont raconté, non sans humour, qu'avec les fumées des cheminées, des usines, les jours de vent favorable, les hommes n'avaient pas besoin d'ordonnance. Mais aujourd'hui, l'ambiance est bien moins légère, comme me l'a confié Audrey Buckley, élu local.
S'il arrivait quoi que ce soit à l'industrie pharmaceutique ici, ce serait tout simplement dévastateur pour toute la région. Dans les années 80, la situation était vraiment très difficile ici. Puis, avec les entreprises pharmaceutiques qui se sont installées, l'émigration s'est arrêtée, parce qu'il y avait désormais du travail sur place. Mais aujourd'hui, autour de la table du dîner, les mêmes questions reviennent sans cesse. Est-ce que de tels travaux ont démarré à l'usine? Est-ce qu'il y a de nouveaux projets? Or, tout semble à l'arrêt. Et c'est ça la inquiétude, ce que l'avenir nous réserve. Les gens repoussent l'achat d'une voiture, l'extension de la maison et ainsi de suite. Ils dépensent moins, c'est sûr. Donc, on voit déjà les effets.
Pour résumer, même si pour l'instant, aucune taxe n'a été appliquée au secteur pharmaceutique, les incertitudes suffisent déjà à ralentir l'activité.
Pourquoi le secteur pharmaceutique s'est-il implanté en Irlande?
Oui, bien sûr, c'est grâce à sa fiscalité plus qu'avantageuse. Le faible taux d'imposition sur les sociétés en Irlande, 12,5%, relevé il y a peu à 15% sous la pression européenne, a convaincu les entreprises américaines de s'y installer. Et donc, il n'a pas fallu longtemps pour que ce village du Viagra attire d'autres géants pharmaceutiques. Parmi eux, on peut citer Johnson & Johnson, Thermo Fisher, Biomarine. Tous profitent du port de Ringaskiddy, cet ancien village de pêcheurs idéal pour exporter leurs médicaments. Et puis à seulement 20 km de là, on a aussi l'entreprise Lilly qui fabrique Mounjaro, Zepbound, deux médicaments anti-obésité qui sont des best-sellers aux États-Unis.
C'est de l'argent mais aussi de l'emploi qui est en jeu.
Oui, alors de l'argent évidemment, juste pour vous dire aujourd'hui, plus d'un euro sur quatre perçu par l'État irlandais provient de l'impôt sur les sociétés. Et parmi ces entreprises, on retrouve en grande partie des multinationales, de la pharma et de la tech. Et pour vous donner un chiffre, l'année dernière, l'Irlande a encaissé près de 33 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés. Mais vous le disiez, il n'y a pas que les recettes fiscales. L'industrie pharmaceutique emploie directement plus de 50 000 personnes dans le pays. Et rien qu'à Ringaskiddy et dans les environs, plus de 20 000 personnes dépendent de ces géants. Des salariés dans les usines, bien sûr, mais aussi tous ceux qui travaillent autour dans la logistique, le transport, la maintenance, etc. C'est donc tout un écosystème économique et des milliers de vies qui sont concernées.
On se veut rassurant du côté des autorités ?
Oui, pour le Premier ministre irlandais, par exemple, Micheál Martin, le risque d'une délocalisation massive vers les États-Unis reste limité. Ces entreprises ont passé des décennies à investir en Irlande, à y développer leur main-d'œuvre, sans oublier qu'après le Brexit, l'Irlande reste leur porte d'entrée anglophone vers l'Union européenne. Enfin, dans le secteur pharmaceutique, construire une usine, c'est long et complexe. Il faut compter 4 à 5 ans minimum, un délai qui dépasse déjà la durée d'un mandat présidentiel américain. À court terme, beaucoup disent donc qu'il est peu probable que les entreprises démantèlent leur site et quittent le pays. Pour l'instant, l'Irlande profite d'un certain répit. L'administration américaine semble concentrer son attention sur d'autres régions du monde. Mais bon, pour combien de temps ?
Pour rappel, le 21 février dernier, Donald Trump a annoncé 15% de nouveaux droits de douane à l'échelle mondiale parce que la Cour suprême a jugé ses premières taxes illégales. Mais pour l'instant donc, le pharmaceutique n'est pas concerné. Deuxième étape, Saint-Pierre et Miquelon, un petit territoire français dans l'Atlantique Nord. Petit, mais entre deux géants, le Canada et les États-Unis, devenus bien plus inquiétants depuis que Donald Trump veut annexer le Groenland et qu'il veut faire du Canada le 51e État des États-Unis. Les Saint-Pierrais-Miquelonnais s'interrogent. Reportage.
Une bonne rasade de neige est venue cette semaine repoudrer le paysage, ses maisons colorées et les pick-up ou 4x4 de l'archipel. Température négative, du vent en rafale. Depuis son bureau, Delphine Dagor admire tous les jours la vue sur le port de Saint-Pierre.
On regarde et on se dit si on se retrouve avec un porte-avions genre USS, quelque chose juste en face, je pense qu'on aura un petit souci quand même, mais oh, allez, on n'y croit pas.
Réflexion entre ironie et sérieux de la présidente de la CACIMA, la chambre de commerce de l'archipel, quand elle évoque les intentions de Donald Trump.
Est-ce que tout ça n'est qu'un gros coup de bluff des Américains ? On a vu comment ils ont pu agir envers le Groenland. Je pense plutôt que c'est une grosse blague, enfin j'ose l'espérer.
L'actualité s'invite aussi ce soir-là, et c'est rare, à la répétition du club d'impro théâtral, les croque-paroles, scénario proposé. Donald Trump envoie donc un porte-avions vers Saint-Pierre.
On a tout prévu pour contrer son attaque. On a décidé de mettre tous les chiens et tous les enfants en première ligne, histoire de les amadouer un petit peu, de les attendrir.
Ou alors on leur balance du guémi. Pour engager
des phoques en première ligne.
Tout ce qu'il faut pour accueillir Donald comme il se doit.
L'outrance et l'humour pour conjurer une situation à peine invraisemblable puisque le Canada est menacé d'annexion, constatent Pierre Martella et Céline Telechea, président et trésorière des croque-paroles.
Déjà, les relations diplomatiques et commerciales avec le Canada sont omniprésentes. Donc forcément, ça inquiète de savoir ce que pourrait devenir le Canada. L'Amérique aussi, vu que c'était aussi un lieu de destination de vacances. Saint-Pierre-et-Miquelon a déjà été impacté par le droit de douane à un moment aussi aux États-Unis. Donc oui, l'actualité nord-américaine impacte quand même assez fortement la vie ici.
On est français ? On se dit que la France a toujours défendu les intérêts de Saint-Pierre et que voilà, on est quand même un territoire stratégique pour la France. On se dit qu'ils ne vont pas nous laisser tomber. On est français.
Et pour les élus du territoire, il ne faut rien céder de la souveraineté française. Pas question de confier notamment une partie du contrôle du survol de l'archipel comme envisagé, même aux alliés canadiens, insiste Annick Girardin, la sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La France, puissance mondiale, pour deux contrôleurs qu'elle n'arrive pas à mettre dans sa tour de contrôle, redemanderait au Canada de gérer une partie de notre espace aérien. C'est juste hallucinant.
L'archipel est un confetti, l'équivalent de la ville de Marseille en superficie. N'empêche que c'est un atout dans l'Atlantique Nord, pour la sénatrice comme pour Bernard Briand, le président de la communauté territoriale.
Quand on parle de l'ouverture de la route de l'Arctique, vous savez, une future route commerciale, Saint-Pierre-et-Miquelon a son rôle à jouer dans cette stratégie subarctique, dans cette alliance entre le Canada, la France, l'Europe, une sorte d'arc de l'Atlantique Nord pour que les États-Unis se sentent un peu plus isolés.
Nous, la France, on y est aussi, au cœur de cette réflexion, et à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans cette stratégie, encore faut-il que le Fulmar, bâtiment de la Marine nationale, reste à Saint-Pierre. Stéphane Lenormand, le député de l'archipel, vient de le demander au gouvernement.
Ici, vous êtes sur la passerelle, à bord de la passerelle du Fulmar.
13 personnes à bord du patrouilleur, c'est un ancien chalutier transformé à la fin des années 90 en navire militaire. Sa mission, le sauvetage en mer et pas la défense, précise le major Olivier, second à bord.
Nous ne sommes pas un bateau de guerre. Nous, c'est vraiment de l'action de l'État en mer, protéger la population et marquer la présence française sur Saint-Pierre. C'est une zone où il y a une présence quasi permanente des forces armées françaises. Donc à ce titre, il y a en quasi-permanence une frégate de la marine qui est déployée en Atlantique Nord. C'est confidentiel, ces bateaux patrouillent dans la grande zone Atlantique Nord. Et quand ils sont de passage à proximité, ils viennent marquer la souveraineté française à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une frégate a précisément fait escale le 7 février dernier dans un port de Saint-Pierre en mal de rénovation.
Un reportage de Béatrice Dugé pour France Inter. Dernière escale, le Venezuela, 2 mois ou presque après l'enlèvement de Nicolas Maduro par des troupes américaines. Une loi d'amnistie des prisonniers politiques vient d'être votée et promulguée. Les vols commerciaux sont revenus, mais la vie des Vénézuéliens reste difficile. Même si l'opposante et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, affirme que son pays entame une véritable transition vers la démocratie et sera libre avec le soutien de Donald Trump. On en parle avec Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine contemporaine à l'Université de Rouen. Monsieur Posado, depuis la chute de Nicolas Maduro, est-ce que la situation des Vénézuéliens s'est améliorée ?
Non, la situation concrète de la population ne s'est pas améliorée. Les évolutions que l'on peut observer, c'est à la fois une libéralisation économique du marché pétrolier avec un accord assez fort avec les États-Unis et de notre côté, un début de libéralisation politique qui, elle, est beaucoup plus tortueuse avec des libérations de prisonniers politiques au compte-gouttes, une loi d'amnistie qui a été adoptée avec un certain nombre de personnes qui ne sont pas qui n'entrent pas dans ce cadre de l'amnistie et visiblement une équipe de Delcy Rodriguez qui essaye de gagner du temps et de se maintenir au pouvoir en soufflant le chaud et le froid sur cet aspect, c'est-à-dire telle personne peut être libérée puis être incarcérée par la suite.
Cette loi d'amnistie votée, promulguée, c'est un signe d'ouverture ou le résultat d'une pression américaine ou les deux ?
Sans doute un peu des deux. On voit que les États-Unis, ce n'est pas la priorité, la libéralisation politique. Leur priorité, c'est de s'approprier des ressources pétrolières du Venezuela. C'est assez clair hein, sur la question de la libéralisation pétrolière. Sur ces prisonniers politiques, c'est le signal que quelque chose a changé dans le pays tout de même, qu'ils ne sont plus totalement les maîtres à bord et qu'ils essayent de lâcher du lest dans une situation qui est compliquée pour eux. Des vagues d'amnistie, il y en a eu auparavant au Venezuela, puis des vagues d'arrestations par la suite. Tout l'enjeu est de savoir si cette vague d'amnistie, elle est le chemin vers une réouverture, un rétablissement de liberté démocratique, ou si c'est une manœuvre pour se maintenir au pouvoir dans une situation complexe, pour après reprendre davantage le contrôle, une fois que peut-être Donald Trump aura les regards concentrés sur un autre pays.
Les relations diplomatiques ne sont pas rétablies de toute façon.
De fait, les relations diplomatiques ne sont pas rétablies en tant que telles, mais elles sont en bonne voie. Il y a une chargée d'affaires qui est en discussion assez proche avec le gouvernement vénézuélien, Laura Dogu, au sein de la base sociale de ce qu'a été le chavisme pendant 24-25 ans. On a toujours été convaincu d'un récit selon lequel les États-Unis étaient le principal responsable des problèmes au Venezuela, et avec des raisons. Hein. Enfin, les sanctions états-uniennes sont à l'origine de la moitié de la crise économique du Venezuela. Les partenaires internationaux du Venezuela, la Chine, la Russie, ont sans doute leur mot à dire. La Chine a encore 10 milliards de dettes au Venezuela, c'est quand même pas rien. Après, la question qui leur sera opposée, c'est que n'ayant pas intervenu au moment où Nicolas Maduro était déstabilisé, quelle est la garantie qu'ils apportent au pouvoir vénézuélien pour se maintenir au pouvoir ? La garantie qui permet à Delcy Rodriguez de se maintenir au pouvoir, aujourd'hui, elle est apportée par la Maison-Blanche, pas par Pékin.
Delcy Rodriguez, elle est présidente par intérim ou plus que ça ? Est-ce qu'elle affirme sa marque ?
Si Delcy Rodriguez est présidente par intérim, on considère au Venezuela juridiquement, constitutionnellement, que Nicolas Maduro est absent de manière temporaire. Parce que s'il était absent de manière définitive, il faudrait convoquer une élection dans les 30 jours. Est-ce qu'ils vont en arriver à convoquer de nouvelles élections ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'elle a une politique qui est autonome de celle que menait Nicolas Maduro. On voit que les alliés de Nicolas Maduro ne sont pas nécessairement les alliés de Delcy Rodriguez, même si politiquement, pour l'instant, on voit largement une stabilité dans l'équipe au pouvoir, mais qui n'est pas sans contradiction. Enfin, c'est difficile d'imaginer qu'un pouvoir qui s'est construit pendant 20 ans sur la détestation des États-Unis passe du jour au lendemain à une alliance proche avec les États-Unis sans qu'il y ait de divergence à exprimer. Pour l'instant, on serre les rangs. Pour combien de temps, c'est difficile à le savoir. Mais de fait, ça démonétise aussi Delcy Rodriguez, ce virage à 180 degrés, et ça montre une désidéologisation du chavisme depuis depuis deux décennies, qui était déjà à l'œuvre sous Nicolas Maduro et qui visiblement a eu une vitesse crescendo depuis ces dernières semaines.
Comment voyez-vous l'avenir du pays ? Est-ce que le pire est passé ?
C'est difficile à dire et je ne serais pas si confiant que cela. Cette libéralisation du pétrole, elle est en défaveur du peuple vénézuélien. Même chose pour les libertés politiques. Est-ce que ces libérations au compte-goutte de prisonniers politiques, on parle de toujours 500, 600 personnes derrière les barreaux contre 1000 il y a un mois et demi, est-ce qu'elles vont se poursuivre ou est-ce qu'il va y avoir un arrêt ? Est-ce qu'il va y avoir même un retour en arrière ? Maduro nous a habitués. Hein, on parle de puertas giratorias, de tourniquets, donc de personnes qui rentrent, de personnes qui sortent. Est-ce que cette dynamique de libéralisation politique, de liberté démocratique va aller jusqu'au bout ou est-ce qu'au contraire on va s'arrêter en chemin, voire même revenir en arrière ? C'est une vraie question. Pour l'instant, l'avenir des Vénézuéliens, il me semble assez incertain et les espoirs qui sont nés du 3 janvier me semblent pour beaucoup largement retardés, voire déçus.
Thomas Posado, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Venezuela de la révolution à l'effondrement ». Merci de nous suivre, merci d'être ouvert à l'actualité internationale.